Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple Khmer. Salut à toi, l'Algérie.
Et salut au bout, les auditeurs de Radio Galère. Les informations hebdomadaires avec Eric.
Oui, salut Jacques, salut tout le monde.
Je te remercie de me remercier, c'est gentil.
Ouais. Te remercier. Bon, salut à vous tous. On vous remercie, les auditeurs, de nous être à l'écoute. Vous allez subir jusqu'à 14h.
C'est ça, oui.
Avant l'émission Handicap qui va avoir lieu juste après. Alors, bon, bah, écoutez, on va parler. Et l'édito d'aujourd'hui, je ne vais pas me
fouler. Tu vas pas te fouler
non. Voilà. J'ai trouvé un appel à la résistance de Bernie Sanders. Oui. On est toujours encore sur les États-Unis, hélas, mais enfin, bon, vu que Trump occupe les médias, oui. Surtout aux États-Unis, hein, carrément, il y a 99% de Trump dans les médias américains. Nous, on a un peu moins, mais enfin, ouais. C'est vrai que Trump se comporte comme un véritable monarque de droit divin. Voilà. D'ailleurs, c'est une allusion à la chronique d'Olivier Morel d'aujourd'hui. Mais je vais revenir à l'appel de Bernie Sanders. Alors, Bernie Sanders, pour ceux qui ne savent pas, c'est un démocrate, c'est l'aile gauche du Parti démocrate.
Un vieux démocrate.
Un vieux démocrate qui s'est présenté contre Clinton en primaire, donc contre Hillary Clinton. Après, il ne s'est pas présenté vis-à-vis de Bernie face à danger Trump. Bernie Sanders, et là, c'est un vieux sénateur, un vieux élu démocrate. Bon, ceci dit, il y a quand même quelques relais après lui, mais il ne prend pas pour autant sa retraite. Hein.
Oui, non, il est toujours assez écouté quand même.
Oui, dans les milieux progressistes des États-Unis.
Donc c'est la gauche du Parti démocrate.
Pour l'équivalent un peu du Parti communiste, disons.
J'irais plutôt la gauche du Parti socialiste.
La gauche du Parti socialiste, encore que le Parti communiste français.
Oui.
Bernie Sanders, c'est la gauche du Parti démocrate. Et il dit, je ne remercie pas souvent Elon Musk, mais il a fait un travail remarquable en montrant ce que nous soutenons depuis des années. Et le fait que nous vivons dans une société oligarchique où les milliardaires dominent non seulement notre politique et les informations que nous consommons, mais aussi notre gouvernement et notre économie. Cela n'a jamais été aussi clair qu'aujourd'hui. Que veulent vraiment lui et les autres multimilliardaires? Quel est leur enjeu final? Les classes dirigeantes tout au long de l'histoire ont toujours voulu et considéré comme leur appartenant de droit. Plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de richesse. Et ils ne veulent pas que les gens ordinaires et la démocratie se mettent en travers de leur chemin. Elon Musk et ses collègues oligarques estiment que le gouvernement et les lois ne sont qu'un obstacle à leur intérêt et à ce à quoi ils ont droit. Les oligarques croient en tant que maîtres de la technologie et en tant que personnes au IQ élevé, ils ont le droit absolu de gouverner. En d'autres termes, ils sont nos rois modernes. Et ce n'est pas seulement une question de force, c'est une richesse incroyable. Aujourd'hui, Musk, Bezos et Zuckerberg possèdent une richesse combinée à de 903 milliards de dollars. Depuis l'élection de Trump, leurs enjeux ont grimpé en flèche. Elon Musk est plus riche de 138 milliards de dollars, Zuckerberg de 49 milliards de dollars et Bezos de 28 milliards de dollars. Si l'on additionne tout cela, les trois personnes les plus riches d'Amérique sont 215 milliards de dollars plus riches que celui du jour de l'élection. Or, 60% des Américains vivent d'un chèque de paie, alors 85 millions ne sont pas assurés et sous-assurés. 800 000 sont sans abri et nous avons un taux de pauvreté infantile le plus élevé de presque toutes les grandes nations du monde. Pensez-vous que les oligarques devraient cracher sur ces gens-là? La décision d'Elon Musk de dissoudre l'Agence américaine pour le développement international signifie que des milliers de personnes parmi les plus pauvres du monde mourront de faim ou de maladies inévitables. Mais ce n'est pas seulement à l'étranger. Ici, aux États-Unis, ils prendront bientôt en charge des programmes de santé, de nutrition, de logement et d'éducation qui protègent les plus vulnérables de notre pays. Comme les rois d'aujourd'hui, ils croient avoir le droit absolu de régner, ils n'hésiteront pas à sacrifier le bien-être des travailleurs pour protéger leurs privilèges. De plus, ils utiliseront les grandes opérations médiatiques qu'ils possèdent pour attirer l'attention sur l'impact de leur politique, tout en nous divertissant à mort. Ils mentiront, ils mentiront, ils mentiront. Ils sèment une guerre contre les classes travailleurs de ce pays et ils ont l'intention de gagner cette guerre. Voilà ce qui déclare c'est vrai que divertir, ça rappelle un peu des propos d'Orwell en 1984.
Oui, ça rappelle aussi Debord, hein, dans la société du spectacle.
Entre autres.
Je veux dire, le vrai est un moment du faux.
Bon, voilà,
n'est-ce pas? Bon. Alors, en parlant de ça, on va parler de la légalisation du cannabis. Et il semblerait que la coalition gouvernementale peine à trouver sa ligne.
Tu veux le taf, Jacques?
Ah, merci. il est bon. Alors, le 1er novembre, au lendemain de la fusillade à Poitiers qui a tué un jeune de 15 ans, Bruno Retailleau avait préparé de bonne heure la petite phrase choc pour les caméras. La France est en voie de mexicanisation, avait lancé le très droitier ministre de l'Intérieur. L'ancien sénateur LR avait évoqué une rixe entre bandes rivales, rassemblant pas moins de 400 à 600 personnes et fut fustigé des narco-racailles. Mais le procureur de la République de Poitiers avait dû le contredire, ruinant sa communication presque rodée. Le magistrat, pour sa part, recensait une soixantaine de personnes présentes sur les lieux du drame. Selon l'avocate de la famille, le mineur tué, lui, n'avait aucun problème de délinquance. Au-delà du désaccord sur le terme employé, il n'y a pas de position commune non plus au sein de la Macronie et de ses alliés sur le sujet plus vaste qu'est la lutte contre le trafic de drogue. Figure de la ligne autoritaire du gouvernement, Retailleau pousse pour un durcissement de la politique anti-drogue. Dans la même veine que Gérald Darmanin, qui avait lancé l'opération PlaceNet XXL, des descentes de police contre des trafiquants dans plusieurs villes de France, accompagnée d'une surmédiatisation, le ministre de l'Intérieur actuel souhaite renforcer l'arsenal législatif contre le trafic de stupéfiants, comme la création d'un parquet national spécialisé. Dans son viseur également, les consommateurs. S'il ne s'est pas exprimé sur le sujet depuis son entrée au gouvernement, le ministre des Sports, Gilles Averrous, un républicain, est un fervent défenseur de la légalisation du cannabis. Et oui, Averrous, en 2023, poussait dans ce sens dans une tribune parue dans le JDD, aux côtés de deux autres maires de son parti d'alors, Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, et Arnaud Robinet, lui, donc maire de Reims, jugeant même cette légalisation indispensable. En 2023, Gilles Averrous, qui était le maire de Châteauroux dans l'Indre, était d'ailleurs candidat pour expérimenter une filière locale de légalisation dans sa ville. Même désaccord à l'Assemblée nationale. Dès 2021, quatre députés macronistes, dont Ludovic Mendes, avaient rédigé un rapport d'information sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. L'élu de Moselle ne compte pas s'arrêter là. Il réfléchit déjà à une proposition de loi pour légaliser le cannabis récréatif et médical. Quand on regarde dans le détail des études scientifiques, quand on sort du dogme politique, le cannabis est moins dangereux que l'alcool et le tabac, justifie le député pour qui la frilosité de son camp à ouvrir le débat est un problème de courage. Selon Ludovic Mendes, il s'agirait pourtant d'une des réponses possibles à apporter aux problèmes sécuritaires posés par le trafic de drogue. Environ 50% du trafic, c'est du cannabis. En légalisant, on reprend le contrôle et on pourrait avoir plus de moyens pour lutter contre les réseaux, martèle le député. Les jeunes avec Macron, eux, ont pris leur indépendance sur le sujet. C'est ce qu'on fait actuellement, ne fonctionne pas, reconnaît le président des JAM, Ambroise Méjean. L'objectif de la légalisation est de casser le marché noir et de protéger les consommateurs, comme quoi hein.
Oui, Dandy, le problème, c'est surtout qu'on fait un grand débat sur la consommation de drogue, mais le problème, c'est pourquoi des gens consomment de la drogue, de l'alcool, des tranquillisants, des
anxiolytiques. C'est qu'ils sont vraiment dans une société qui fait tout pour les combler, dans laquelle ils se sentent tout à fait à l'aise et heureux, quoi, bien sûr.
C'est la société de consommation.
Oui,
je consomme, donc j'existe.
Entre autres. Mais
voilà, je ne peux pas consommer, donc je suis mort.
Bon, mais c'est aussi avec tous les tranquillisants, antidépresseurs et tout ça, c'est dans un monde qui est effectivement très... disons qui arrive donc à favoriser la dépression, qui arrive à favoriser les addictions, parce que si vous êtes chauffeur routier et qu'on vous demande de conduire 70 heures par semaine, c'est difficile de le faire uniquement en buvant du café, par exemple.
Voilà, donc il faudrait peut-être réfléchir là-dessus, que parler d'interdiction qui est maintenant profite aux trafiquants. D'ailleurs, Al Capone était pour l'interdiction de la vente d'alcool.
Ah ben oui, ça fait sa fortune, c'est vrai.
On va parler d'un thème récurrent qui est dans la série Le délire identitaire, être français.
Oui, ça va.
Voilà. Alors, on va aller.
Êtes-vous plus français que lui, ça me rappelle quelque chose.
C'est oui, Zemmour. Zemmour, excusez-moi du lapsus. Alors, être français, ça ne peut pas être par hasard de la naissance. Être français, c'est une volonté. C'est Gérard Darmanin qui sort cette phrase.
Darmanin,
oui. Alors, évidemment, c'est le retour à la loi Méhaignerie qui, entre 93 et 98, imposait une manifestation de volonté aux enfants d'étrangers nés en France pour qu'ils acquittent leur majorité. Une loi qui avait été supprimée par Jospin en 98. Alors, chaque année, 30 000 jeunes deviennent français par le droit du sol, selon lequel un enfant né en France de deux parents étrangers devient français à sa majorité, ou de façon anticipée à partir de 13 ans, à condition d'avoir resté en France au moins 5 ans depuis ses 11 ans. Les prises de position du ministre LR ne sont pas nouvelles. Lors de la campagne présidentielle de 2022, le parti défendait la fin du droit du sol automatique et son conditionnement à des preuves d'assimilation, tests de français notamment. Et pourtant, la dernière restriction du droit de sol à Mayotte, décidée en 2018, n'a aucunement jugulé le flux des migrants irréguliers. Les naissances ont augmenté alors que les acquisitions de la société ont drastiquement chuté. L'attractivité de Mayotte s'explique bien davantage par des écarts de niveau de vie avec le reste des Comores ou la qualité du système sanitaire français. En fait, c'est un peu tout la pauvreté qui pousse les gens à émigrer vers les pays riches. Et
c'est non, pas nouveau. C'est incroyable. je suis étonné.
Voilà. Alors, s'attaquer au droit du sol et sur le reste du territoire n'aura pas davantage d'incidence. Et c'est ce que dit l'historien Patrick Veil. Ça n'a aucun sens. La région de ce débat permet en tout cas à l'extrême droite de plaider une suppression totale du droit de sol. Être français, ça se mérite ou ça s'irrite, redit le putain de tennis Yoann Gillet. Et dans son programme en 2022, Marine Le Pen promettait que la transmission de la nationalité française serait pour l'essentiel possible que par filiation. Alors, ce que dit Patrick Veil, c'est ce qui appelle à une suppression du droit de sol révèle une tradition de l'action française. C'est le fond de cuve de l'extrême droite depuis la fin du 19e siècle, qui appelait Métèque ou Français de papier ceux qui avaient bénéficié de ce droit du sol.
Bah oui.
On rappelle ces petits discours sous le Vichy.
Ah oui, non, bon, ça va. Voilà. Êtes-vous plus français que lui donc.
Voilà, alors l'historien Raymond Blanchard, lui, dit « De très longue date, le droit de nationalité a été un vecteur d'affrontement lié à des conceptions différentes de la nation et de la République. Il y a des perspectives ethno-culturelles et d'autres avant tout juridiques. » Il faut savoir qu'il y a plusieurs lois de la nationalité qui ont été faites en 1851, 1889 et 1927. De même, le régime de Vichy n'a pas remis en cause le droit du sol, sauf pour les Juifs.
Tiens, voilà, étonnant, non ?
D'Europe centrale. Par contre, il faut préciser, et c'est ce que dit Blanchard, le socle, c'est 1889. C'est un texte républicain, nationaliste et patriote. Il vise à renforcer la nation française en faisant en sorte que l'État ait une emprise sur les étrangers. Mm-hmm. L'idée était d'empêcher que se constituent des communautés d'étrangers, italiens notamment, des colonies, entre guillemets, comme on disait sur la Troisième République, et que cela pose un problème de loyauté envers la France. Il fallait aussi ouvrir largement la nationalité afin d'ouvrir à la France de nouveaux soldats. Donc l'idée de faire le droit du sol, c'était aussi pour rentrer une cohésion nationale.
Ah, d'accord.
Voilà, et ça, il ne faut pas oublier. Alors, c'est vrai qu'à propos des immigrés italiens, vous savez qu'il y a une brochure qui s'appelle La province italienne, publiée en 1903.
Oui, bon,
l'invasion des Italiens qui sont à la fois des délinquants, à la fois des travailleurs de vol, des travailleurs français, et un complot. Ça ne rappelle pas quelqu'un qui parle du complot de le grand remplacement ?
Oui, non, mais c'est une vieille tradition en France.
On recycle les mêmes discours, à part qu'on remplace le mot italien par autre chose.
Bah, ça dépend de l'immigré du moment, quoi.
Oui, c'est vrai que Bardella est plus français que français.
Oui, par exemple. Alors, bah, tu connais Cogolin ?
Cogolin, oui, c'est une commune dans le Var. Voilà, oui, je crois qu'il y a un maire plutôt RN, non ?
Non, puis plutôt zémouriste, en fait.
Ah oui, donc devenu zémouriste,
oui. Oui, il s'appelle M. Lansade. Alors, 10 ans à surveiller le maire d'extrême droite, scruter ses ambitions et ses décisions litigieuses, l'association Place Publique de Cogolin a été d'ailleurs créée pour cela en 2014, quand l'ancien agent immobilier biberonné au Lavallois des Balkany a ravi la mairie, et aussi pour recréer du lien entre les habitants. Depuis, le maire Marc-Étienne Lansade a été mis en examen 11 fois pour favoritisme, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics. Il est témoin assisté dans un dossier pour faux et usage de faux. On complète le tableau. Lansade est un ancien du Front National, un fan de Marion Maréchal, passé chez Éric Zemmour et il était sur la liste Reconquête aux Européennes de 2024.
D'accord, oui.
Alors, ce monsieur Lansade, en septembre, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 3 ans de privation de droits civiques et donc l'inéligibilité dans une affaire d'abus de faiblesse. Sans exécution provisoire, il a pu tout de même garder son mandat. Alors ce monsieur, en 2020, il avait fait signer à un ami une procuration pour valider une vente immobilière dans la ville. L'ami en question était alors sur un lit d'hôpital, soigné pour une méningite contractée sous VIH et dans un niveau de confusion non équivoque selon le parquet. Du genre à arracher le coton de sa couche pour le manger, selon le procureur de Draguignan.
Donc il a quand même pu signer.
Ouais, et puis il est mort quand même en 2023. Hein. Alors en 2015, après un appel d'offres comptant parmi les 2 finalistes, un couple d'amis, Lansade, leur signe un contrat de bail pour la gestion d'un restaurant de plage aux marines de Cogolin. Mais la cahute prend feu un an plus tard, avec dans sa caisse une liasse de faux billets. Place Publique découvre alors que cet ami du maire, dont le nom figure sur le bail, n'a pas contracté d'assurance pour sa plage. Grand Prince, Lansade, décide de faire prendre en charge des travaux de reconstruction du restaurant par la commune. Il sera ensuite remboursé par l'assurance. Facture salée 300 000 euros, d'autant que cette proche revend ensuite son bail pour une somme rondelette 500 000 euros. Alors le mari du couple, ami de Lansade, n'est pas en reste, car Place Publique découvre à peu près à la même époque que celui-ci se cache depuis peu derrière la société d'exploitation d'un camping et d'un petit hôtel de vacances situé sur un terrain particulièrement prisé à Cogolin, celui du Yotel. Tout cela s'est fait sans aucun appel d'offres et depuis 2021, l'homme affirme que son bail précaire est en fait un bail commercial et refuse de quitter le terrain. Lansade fait voter en conseil municipal une provision de 1 million d'euros au cas où pour payer l'indemnité d'éviction due à l'occupant récalcitrant avec qui il a déjà fait affaire. reste une histoire de commercialisation douteuse, des droits de place de bateaux au port des marines, confiés un temps à une entreprise de textile. Là encore, Place Publique dénonce la potentielle entourloupe et fait tout capoter. Jusqu'à la dernière affaire, en 2017, un référent d'Anticorps se présente à la Place Publique, à Place Publique comme un crack en droit portuaire et lui réclame l'ensemble des preuves sur Cogolin censées servir à un signalement. Mais celui-ci n'arrive jamais. Une fois renseigné sur les dossiers du maire, l'homme a vendu ses services en tant que consultant à Marc-Antienne Lansade. Alors bon, pour 2025, Place Publique compte bien continuer son action. L'année dernière, l'association avait alerté la population de Cogolin sur un projet du maire de supprimer le stade de la ville pour satisfaire son appétit de béton. C'est bien, Cogolin.
Bétonisation,
balkanisation,
bétonisation.
C'est ça, oui.
Balkanie, balkanisation, bétonisation. C'est pas Le Pen qui dénonçait la République, les républiques.
La République, oui, non, mais tu sais, c'était même propre était autre aussi.
Oui, même propre, mettons, ma mémoire qui met des gammes pour faire les affaires
c'était
financières.
C'était le manipulité des fascistes italiens.
Oui, oui, enfin, les mêmes propres parce qu'il y a des gangs.
Oui,
voilà. Pour tâcher les tasses de sang et de fric. Âme sensible, s'abstenir, parce que je vais dire des propos sexistes.
Ah bon oh, ah, c'est pas bien.
En fait, c'est les propos que Sandrine Rousseau, dans un avant-propos du rapport de la commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant et de la mode et de la publicité, sa présidente Sandrine Rousseau énumère des faits et propos entendus durant les 118 heures d'échange avec 350 professionnels et voici quelques extraits.
Ça en fait, oui.
Voilà, je vais lire quelques extraits, pas totalement, mais c'est quand même assez révélateur de la mentalité sexiste qui règne dans le milieu de l'audiovisuel du cinéma.
Oui, on s'en doute.
Voilà, des témoignages résolument accablants, nous sommes parvenus. Et elle montre, bien sûr, ce qu'il y a. Alors, il y a ce professeur en classe préparatoire de cinéma qui qualifie une scène de viol de « plus belle scène d'amour jamais vue ».
Ah bon ?
Du directeur de production qui lance à un réalisateur à propos du script « tu peux l'engager, elle est pas chiante ».
Ah, d'accord, ouais.
Du second assistant caméra qui répond à la script, qui lui demande une information technique, je te donne le nombre de gigas si tu me suces.
D'accord, c'est pas mal.
Voilà, ça donne une délicatesse.
Oui, oui, non, mais bon.
Enfin... Alors, du directeur de collection qui demande à un jeune scénariste, quand est-ce que tu me suces ? Du chef opérateur qui demande à la script ses positions sexuelles préférées, de celui qui demande à une actrice racisée si elle couche, racisée, donc elle est noire,
hein, oui.
Si elle couche aussi avec des blancs.
Ouais, d'accord.
De la chef décoratrice qui répond à une régisseuse harcelée moralement que le harcèlement, ça n'existe pas. C'est comme MeToo, c'est un effet de mode.
Mm-hmm.
Voilà. Du critique de cinéma qui lance à sa jeune collègue « Tu ressembles à une actrice porno, assise comme ça au milieu de la pièce, tu pourrais te faire gangbang par tout le monde. »
D'accord.
Voilà, bon. Ça c'est vraiment une délicatesse.
C'est les gens, oui, plein de délicatesse.
Voilà, de penser les amateurs des films de Sandy Lubrick et de Don Coppola.
Ils sont très romantiques tous.
Voilà. Du réalisateur qui demande à une actrice de passer un casting en utilisant son vrai vomasseur.
Oui, d'accord, aussi.
Voilà, bon,
ouais.
C'est tous des témoignages, hein, au cul, oui, par oui, les oui, 118 heures de... Non, c'est pas de moi, je précise. De celui qui met au défi une jeune actrice de se mettre un œuf dans le vagin pour démontrer son talent. Alors, je saute, bien sûr. De l'acteur principal d'un film qui n'interpelle une actrice qu'en faisant référence à ses seins. Du milliardaire qui, avec la complicité d'un réalisateur connu dont il finance les films, harcèle une jeune mannequin pour rêvant de devenir actrice.
Oui.
De cet écrivain réalisateur qui lance publiquement à l'actrice qui a refusé ses avances sexuelles plus qu'insistance, tu es une merde, une petite pute, je les connais, les salopes dont on gère, qui veulent réussir, tu ne t'approches plus de moi et de mes amis.
D'accord, ouais,
voilà. Alors, je ne sais pas qui est l'auteur connu. Hein.
Non, mais c'est enfin bon.
Bon, après, peut-être le style, peut-être deviner, mais bon, ce n'est pas été cité.
Non, je n'ai pas deviné. Document.
Alors, du professeur de flûte d'une école de musique qui incite une élève à jouer un peu plus pute, comme si la confiture dégoulonnait sur son décolleté.
Oui, non.
Alors, je saute encore quelque part. Du comédien qui plaque une jeune assistante contre un mur dans le couloir désert pour l'embrasser de force. Un auteur connu.
Oui.
De ce professeur de danse qui lance des chaises sur ses élèves lorsque ses consignes ne sont pas répliquées. Du directeur de production qui continue d'embaucher son ami technicien suspecté de viol.
Oui.
Ça, c'est courant d'ailleurs dans certains d'autres milieux, hein, pas que dans le cinéma. Du producteur d'une émission radio qui, sous couvert d'incarner un satire, se frotte lascivement de force contre une collaboratrice sous le regard médusé de ses collègues. Alors, je ne sais pas si fait aller quelqu'un très connu à la télé.
Oui, bah, il y en a un.
Je vais pas citer le nom pour éviter un procès, mais enfin.
Oui, voilà, bon, il y a beaucoup de gens.
Quelqu'un qui était sur C8, bon, j'ai rien dit.
Ah oui, je vois.
De ce musicien qui tente de violer une fan dans un bus de tournée. Mais ça, tu crois que c'est peu fréquent dans le milieu du rock, non?
Je sais pas, tu sais, très bon.
Du réalisateur qui tente de violer une jeune stagiaire en lui faisant miroiter des essais avec un directeur de casting influent. Et pour terminer, de l'acteur qui, lors d'une scène d'intimité, soudra, viole sa partenaire. De la jeune critique de cinéma violée par un critique d'âge mûr lors d'une soirée en marge du Festival de Cannes, etc., etc. Conclusion de l'introduction, cette liste est déjà longue et hélas inépuisable et ce n'est qu'un échantillon des témoignages de la commission d'enquête a reçu.
Eh bien, ça promet.
Voilà, bon, ça promet la lecture. Bon, excusez-moi pour ces propos sexistes, mais c'est dans le milieu du cinéma.
Tu connais le principe du boomerang?
Tu lances quelque chose, tu le prends à la figure.
C'est ça, c'est ça.
Classique.
Donc, la prochaine information s'intitule « Comme un boomerang ». Fut un temps où le parti confondé par Jean-Marie Le Pen et d'anciens SS vantait sa pureté judiciaire et n'avait pas de mots assez durs pour ceux qui, ayant franchi la ligne, étaient rattrapés par la patrouille. Nouvel exemple avec l'eurodéputé Gilles Penel, proche de Philippe Olivier, éminence grise et beau-frère de Marine Le Pen. Penel a été l'artisan du fumeux plan Matignon préparé par le RN et destiné à le porter au pouvoir en cas d'élection législative anticipée, avec un succès qu'on jugera poliment de modéré. C'est ce même Penel qui, en août 2019, ciblait le député LREM d'Ille-et-Vilaine et Mustapha Labid, condamné en première instance pour abus de confiance à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende et surtout 3 ans d'inéligibilité. Élu lui aussi de Bretagne, notre Le Peniste s'insurgeait et réclamait le départ de l'élu de l'Assemblée. Et c'est donc là qu'on rigole car les demandes de Penel résonnent drôlement aujourd'hui. C'est trop facile de faire appel, lançait cet ancien membre de la direction du RN à France 3. L'inéligibilité, c'est une peine grave. Son parti devrait demander à Labid de démissionner. Et le même d'estimer que si Emmanuel Macron et ses amis incarnaient vraiment une nouvelle façon de faire de la politique, il devrait demander la démission de ce député pour sortir par le haut de cette affaire. Mais bon, soyons honnêtes, Penel n'a pas été le seul à prôner la fermeté contre Labid. Le conseiller régional RN de Bretagne, Éric Salmon, réclamait aussi le retrait définitif de la vie politique et l'organisation d'une élection législative anticipée. Le lépéniste moquait aussi un jugement loin de la prétendue moralisation de la vie publique annoncée par les macronistes. Ce n'est pas au parti qui se vantait d'avoir la tête haute et les mains propres qu'on verrait de pareilles choses. Mais oui, une semaine après la condamnation en première instance de Le Pen, du RN et d'une flopée d'autres huiles d'extrême droite pour détournement de fonds publics, le souvenir de ces déclarations de Matamor est savoureux. On sent des booms et des bangs agiter leur cœur blessé, la sévérité comme un boomerang leur revient des jours passés. Boum!
Alors, on va passer tout de suite à la chronique de Olivier Morel. Alors, cette semaine, il va nous parler du monde selon
Trump, non?
Non.
Non, ah, Musk.
Musk, oui. C'est sa chronique du 12 avril, donc qui va diffuser mercredi prochain.
Oui.
Et il s'agit de la manière dont le monde est conçu et façonné par un personnage haut en couleur très influent du conseiller président américain, Elon Musk. Alors, il va commencer par la chronique en parlant de Trump comme plombier.
Ah bon, le plombier?
Le plombier qui fait une réparation et qui inonde tout le quartier, et tout l'immeuble.
D'accord, non, c'est pas l'histoire du canard enchaîné avec les micros.
C'est pas le plombier polonais, c'est le plombier américain.
D'accord, c'est
qui
pas
qui s'apparente au pompier pyromane.
D'accord, ok.
Voilà, à propos de la bourse et tout ça. Et il va faire référence, bien sûr, à Musk et surtout au grand-père de Musk. Mais il va d'abord parler d'un ouvrage, une chronique cette semaine qui s'appuie beaucoup sur les travaux tout récents d'une très influente historienne américaine, Jill Lepore, professeure à Harvard, autrice de nombreux ouvrages et parmi un qui s'appelle Comment la corporation Simultantique a inventé le futur. Alors, cet ouvrage, malheureusement, n'est pas traduit en français.
Comment il s'appelle, cet ouvrage?
Alors, Comment la corporation Simultantique a inventé le futur. Oui. C'est écrit en 2020.
D'accord.
Et c'est tout début de l'informatique où il y a des informaticiens qui vont travailler à travers de logiciels sur l'opinion publique.
D'accord, ben oui, voilà. Comme l'affaire Cambridge Analytica, par exemple.
Voilà. Depuis quelques années, elle écrit sur la vision du monde qui dirige les gens de la tech, et notamment d'Elon Musk. Et Elon Musk, il parle d'Elon Musk, bien sûr, qui est un féru de science-fiction, et du grand-père d'Elon Musk, qui est maternel, pas le côté paternel, donc il n'a pas le même nom de famille, qui est une sorte de technocrate des années 30. Hein.
D'accord.
Alors, c'est très intéressant. On verra toutes ces allusions, le futur, tout ça, le monde vu par Elon Musk et sa formation intellectuelle par son grand-père, qui est quand même très, 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 très inquiétante.
D'accord.
Galère. Oui, pour ceux qui aiment la dystopie, qui devient une réalité.
Ça Cette semaine, la chronique aurait pu s'appeler « Le plombier et l'anniversaire ». Le plombier, parce que c'est une des anecdotes ou des blagues qui circulent beaucoup aux États-Unis cette semaine autour de la manière dont Donald Trump impose des droits de douane, chose dont le monde entier parle, puisque maintenant le monde entier est frappé par les conséquences de l'élection de Donald Trump à l'élection présidentielle en novembre 2024 et depuis qu'il a pris le pouvoir en janvier 2025. En effet, la blague ou la métaphore du plombier est utilisée pour dire en gros que voici un plombier qui arrive pour réparer des canalisations dans une maison. Au lieu de les réparer, il les bouche, il les casse, et donc il casse les canalisations dans une maison, qui entraîne la destruction des canalisations dans la rue, et puis la canalisation étant détruite dans la rue, tout le quartier, puis toute la ville, et puis au bout d'un moment, une grande partie d'une région voit ses canalisations exploser de partout. Évidemment, le plombier en question, c'est Donald Trump, hein, et l'une des conséquences de cette destruction des canalisations, cette destruction en chaîne, c'est que le plombier Donald Trump a désormais énormément de travail et qu'il est le sauveur puisque c'est le plombier qui va aussi réparer les canalisations. En gros, c'est la métaphore qui est utilisée depuis quelques temps, depuis quelques jours, par certains économistes, certains observateurs, des commentateurs, pour dire en gros la façon dont Donald Trump, après avoir provoqué une crise économique liée aux droits de douane, se présente maintenant en sauveur puisqu'il va négocier pays par pays des deals, comme il les appelle, donc des accords avantageux pour les États-Unis, selon sa spéculation à lui, des accords avantageux qui vont permettre à Donald Trump d'être le sauveur qui guérit le monde et qui guérit notamment les États-Unis des conséquences économiques graves que provoque l'annonce des droits de douane. Alors ça, c'est l'anecdote. Ça, c'est la blague. C'est un peu la métaphore qu'on entend à droite et à gauche autour de ce plombier dont on a aussi une métaphore dans la figure du pompier pyromane qui, comme il est pompier, ayant mis le feu, va être aussi embauché pour éteindre les feux. Bref. Il y a une autre date qui est très importante cette semaine dans les conversations, puisque nous parlons cette semaine de l'instauration des droits de douane depuis le 2 avril. L'autre date, eh bien, c'est la date de l'anniversaire. Et l'anniversaire, c'est celui de Donald Trump lui-même. Donald Trump aura 79 ans le 14 juin. Or, il se trouve que des personnes de son entourage ont fait des demandes auprès de la mairie de Washington DC, donc de la capitale des États-Unis, auprès de la mairie qui est détenue par une maire démocrate, Muriel Bowser, pour avoir une permission d'utiliser les rues de la capitale américaine pour un défilé militaire. Un défilé militaire qui, bien sûr, se tiendrait le 14 juin en l'honneur de Donald Trump. Alors évidemment, ce sont des fuites et nous n'avons évidemment pas de confirmation à ce point, à cette date de certitude sur ce que serait ce défilé militaire s'il a lieu. On sait juste que Donald Trump s'est beaucoup intéressé aux parades militaires après un séjour qu'il avait fait à Paris lorsque Emmanuel Macron l'avait invité à assister au défilé militaire du 14 juillet. Une chose qui avait beaucoup impressionné Donald Trump au cours de son premier mandat, tant et si bien qu'il était rentré aux États-Unis en demandant qu'on organise des choses similaires dans la capitale américaine. Ses conseillers à l'époque, en particulier ses conseillers militaires, étaient parvenus à le dissuader d'organiser une telle chose et on a lu cette semaine que la facture pour un tel défilé militaire serait évidemment de plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui, en ces temps de début de récession économique, passerait peut-être assez mal dans la population et dans l'opinion américaine. Mais je voulais consacrer cette chronique à autre chose. J'ai beaucoup parlé de Elon Musk, de sa façon en particulier de concevoir le modèle économique dans lequel il a pris le pouvoir sur Twitter, qui est devenu X, puis la façon dont ses méthodes ont été appliquées à la tête du gouvernement des États-Unis à partir du 20 janvier. Et en particulier le groupe de techniciens, des technologies qui s'est formé autour de lui sous le nom de Doge, le D-O-G-E. Alors je me suis intéressé dans ce contexte au travail d'une historienne dont j'avais découvert les textes il y a plusieurs années, autour de 2020, lorsqu'elle avait publié un livre qui portait sur la manière dont, autour de 1959 et dans les années suivantes, un groupe de sciences sociales, de scientifiques des sciences sociales, un groupe de sociologues très intéressés par par la collection des données personnelles, nous sommes bien en 1959, avait mis au point une machine qui permettait de prédire les comportements des individus en fonction de quelques données personnelles qu'on incluait dans le processeur de cette machine. En gros, ce sont évidemment les débuts de l'informatique, mais aussi les débuts de l'informatique à des fins d'utilisation de ce qu'on appelle aux États-Unis beaucoup l'ingénierie sociale. La machine s'appelle Simulmatics. Alors Simulmatic, c'est une machine qui donc est mise au point par ces scientifiques qui se réunissent sur la côte atlantique dans la région de New York. L'historienne en question a retrouvé les archives. Elle a retrouvé les archives de ce groupe de scientifiques dans les caisses du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, donc l'Institut des technologies du Massachusetts, qui fait beaucoup de recherches sur les nouvelles technologies, comme on sait. C'est un très célèbre institut dont l'influence mondiale n'est pas à démontrer, mais elle avait retrouvé donc les traces de cette construction, de cette machine qui, encore une fois, en fonction des données qui lui étaient fournies, des données de comportement, des données autant de comportements d'ailleurs culturels, sociologiques, mais aussi de comportements économiques, pouvait permettre pour ces scientifiques, selon eux, à partir de l'élaboration de cette machine, de prédire le vote. Et c'est évidemment dans le contexte des élections que cette machine a prouvé son efficacité, puisque non seulement l'un des buts de cette machine était de prédire les comportements électoraux des individus en fonction d'autres comportements qui concernent leur vie courante, leur vie de tous les jours, leur culture, leur profil sociologique, mais de façon assez rigoureuse, non seulement de prédire, mais aussi donc de fournir des informations aux leaders d'opinion, aux candidats aux élections, sur les thèmes, les sujets qui pourraient concerner particulièrement ces individus. Donc en gros, c'est pas seulement le début des sondages et de la façon dont les politiciens utilisent et les politiciennes utilisent les sondages, mais c'est aussi, c'était ça le but de Simulmatics, et c'est ça que cette historienne Gilles Lepore, c'est son nom, c'est ça que Gilles Lepore étudie, c'est qu'ils avaient aussi la vision, en quelque sorte la fiction, d'une, non seulement d'une prédiction des comportements, mais de la manière dont les comportements pourraient être engineered, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire façonné, dessiné par les leaders d'opinion. En gros, ce sont les techniques de marketing qui sont appliquées à la politique, mais pas seulement de façon verbale et de façon publicitaire. Ici, c'est de façon technologique, j'allais dire presque robotique. En gros, donc, ce livre de Jill Lepore, qu'elle a publié en 2020, qui s'appelle « If Then, How the Simulmatics Corporation Invented the Future », comment la compagnie Simulmatics, c'est le nom de cette société privée qui avait été fondée par ces scientifiques, a inventé l'avenir, ça veut dire exactement ce que ça dit, c'est-à-dire la façon dont cette machine avait la capacité de fabriquer le futur. Évidemment, Gilles Lepore et son éditeur avaient publié ce livre dans un contexte où on sait bien que le public allait le lire comme une sorte de préfiguration de la façon dont les médias sociaux et leurs propriétaires ont aujourd'hui, de nos jours, la capacité non seulement de prédire les comportements, mais à partir de l'algorithme, à partir de la collection des données personnelles des utilisateurs, qui, je le rappelle toujours, a une valeur marchande plus importante que celle des transactions sur le marché du pétrole mondial aujourd'hui, eh bien la façon dont la collecte de ces données personnelles peut être utilisée par des leaders d'opinion pour infléchir les choix, les comportements, les goûts et les opinions politiques des utilisateurs. Donc Simulmatics s'est effondré pour toutes sortes de raisons très compliquées, en particulier des raisons relationnelles au sein du groupe de scientifiques. Donc vers les années 70, la corporation Simulmatics, les concepteurs, l'entreprise avaient cessé ses activités. Mais évidemment, tout ceci va prendre une résonance particulière à partir de l'essor des médias sociaux et de l'algorithme. Gilles Lepore signe dans des journaux, y compris le New York Times, le New Yorker, mais aussi elle parle à la radio pour la BBC. Elle a travaillé au cours des derniers temps sur les origines. Alors non pas les origines uniquement familiales et privées de Elon Musk, mais les origines de sa pensée. La façon dont la pensée de Elon Musk s'est forgée. Et alors elle a travaillé notamment dans deux directions. Une direction, c'est bien sûr à travers et au-delà de la biographie de Elon Musk, c'était de s'intéresser aux lectures de Elon Musk et au fait que Elon Musk, d'ailleurs c'est quelque chose qu'il a en commun avec Jeff Bezos, est un féru de science-fiction. Il lit énormément de science-fiction, il s'y intéresse beaucoup et bien sûr, on n'a pas le temps ici de citer tous les auteurs qui ont une influence sur Elon Musk, sinon pour dire que la recherche de Jill Lepore nous montre que l'influence de la science-fiction chez Elon Musk date de son adolescence. On sait qu'il a grandi en Afrique du Sud, il a vécu à Pretoria jusqu'à l'âge de 17 ans. Il a d'ailleurs quitté l'Afrique du Sud pour échapper à la conscription obligatoire. Et à cette époque, il lit énormément de science-fiction. Et une science-fiction qui, en particulier, avait des ramifications dans ses liens avec le schéma impérial de l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Et bien sûr, dès qu'on évoque ce sujet, on parle de La Guerre des Mondes de H.G. Wells. La Guerre des Mondes, qui est un ouvrage de science-fiction, donc de la science-fiction vraiment des premiers temps, publié en 1898, où, en gros, les Martiens envahissent la Terre. C'est vraiment le thème des Martiens nous vient de H.G. Wells dans la littérature et dans le cinéma et dans la télévision science-fiction contemporaine. Les Martiens envahissent la Terre et c'est pour H.G. Wells une manière de fictionnaliser quelque chose qui est la colère d'un écrivain contre la manière dont l'Empire anglais s'étend. Et en particulier quand Wells écrit ce roman de science-fiction, il pense à l'expansion anglaise en Tasmanie qui conduit à une véritable guerre d'extermination. Ce qui est très intéressant, hein, c'est que H.G. Wells ne justifiait pas les Martiens dans La Guerre des Mondes. Comme le souligne Jill Lepore, il mettait en cause les Anglais. C'est aux Anglais qu'il en voulait, puisque l'expansion anglaise en Tasmanie est conduite telle une guerre d'extermination. Ce qui est une caractéristique, bien sûr, de l'impérialisme anglais. On pourrait aussi parler tout au long du 19e siècle de l'impérialisme français, de l'impérialisme italien ou allemand, et de l'impérialisme, bien sûr, belge, qui va aboutir à la destruction et à la mort de dizaines de millions de personnes, par exemple au Congo. Donc H.G. Wells est franchement un auteur qui est marqué dans son approche par le discours et la recherche d'un anticolonialisme, d'une mise en cause de l'impérialisme anglais dans sa version la plus violente. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, alors je prends juste cet exemple de H.G. Wells parce que Gilles Lepore y consacre des lignes dans ses travaux. Ce qui est très intéressant, c'est la lecture que Elon Musk fait de ses auteurs, sa manière de sortir de la lecture de ses livres, c'est de construire ce que Gilles Lepore appelle la version musquiste du capitalisme, qui est un capitalisme de désastre. En vérité, ce qui marque beaucoup, selon Gilles Lepore, toujours, ce qui marque beaucoup la manière dont Musk voit le monde à travers ses ouvrages de science-fiction et au-delà, c'est une notion qui est ce que M. Musk appelle le X. Risks, c'est-à-dire les risques existentiels. Et ce qu'il tire de ces textes de science-fiction, c'est la notion d'un spectre qui est le spectre de l'extinction de l'humanité. Et que l'humanité est entrée dans une période de désastre et qu'il faut, en vérité, non seulement sauver l'humanité, mais sauver aussi la planète. Ceci à partir de trois constats qui vont s'élaborer chez Elon Musk autour de la fin des années 90, à une époque où il quitte un programme, il se désinscrit de l'école doctorale de Stanford où il étudiait pour fonder son entreprise qui s'appelle X.com. À cette époque où le fossé considérable entre les riches et les pauvres ne cesse de s'aggraver, la solution à l'extinction de l'humanité et aux désastres qui apparaissent évidemment dans les textes de science-fiction qui marquent beaucoup Elon Musk, eh bien la solution face à ces désastres, c'est la technologie. C'est la technologie qui sauvera le monde. Donc la technologie, elle arrive dans ce contexte où, dans la vision du monde d'Elon Musk, nous assistons à la fin du travail, the end of work, qui a été théorisé par certains économistes. Nous avons une notion de sauver la planète, qui est le risque, le fameux risque existentiel qui hante Elon Musk dans toute sa trajectoire, apparemment. Et c'est l'importance de la technologie, la manière dont la technologie peut être salvatrice. Donc, En fait, en quelque sorte, c'est aussi la façon dont la technologie pourrait avoir le dessus sur la culture et même sur la politique. Et alors là, on rencontre une autre dimension de Elon Musk. En fait, lorsque Jill Lepore, l'historienne, s'intéresse à l'influence des textes de science-fiction sur Elon Musk, avec cette caractéristique des textes de science-fiction, qui, encore une fois, comme ceux de H.G. Wells, sont des textes anticoloniaux, il n'y a pas d'erreur sur ça, mais qui prédisent et qui fictionnalisent un effondrement de l'humanité dans son entier. Chose qui, évidemment, ne va que s'aggraver après les années 40 avec la guerre froide et qui va nous produire une autre salve de textes de science-fiction qui ont en commun cette hantise de Elon Musk, à savoir la disparition, l'explosion, l'effondrement de l'humanité. Mais là apparaît une autre dimension, donc la recherche de Jill Lepore qui est plus récente et qui porte sur la famille de Elon Musk et en particulier un grand-père, son grand-père, Joshua Haddleman, qui est une figure extrêmement romanesque lui-même. C'est un grand-père qui dit... Jill Lepore est cowboy, chiropracteur, complotiste et aviateur. Mais il est surtout connu pour être l'un des leaders fondateurs du mouvement dit technocrate. Alors, technocrate, c'est un mot qui va résonner tout de suite dans les oreilles françaises, évidemment. Mais en vérité, c'est le mot technocrate à son origine que je suis en train de citer ici. Technocrate, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est, selon la théorie et la pratique du grand-père de Elon Musk, c'est un mouvement. D'abord, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui, justement, pense, élabore l'idée que la technique, la technologie va corriger les défauts de l'humanité. Sauver l'humanité. En fait, il s'agit de la notion salvatrice de l'humanité grâce et à partir de la science et de la technologie. Alors nous sommes au Canada, puisque le grand-père de Elon Musk vit au Canada à cette époque-là, et au Canada, puis aux États-Unis, et il va lancer un mouvement qui en gros a quatre dimensions. C'est un mouvement qui va devenir populaire véritablement à partir du début de l'année 1932. En cette année 1932, il faut se souvenir qu'une élection présidentielle a eu lieu aux États-Unis qui a porté au pouvoir Franklin Delano Roosevelt. En 1932, c'est la nouvelle civilisation de FDR, comme on l'appelle aux États-Unis, donc Franklin Roosevelt, qui va constituer dans la construction, dans la reconstruction d'une Amérique qui vit sur les décombres d'abord de la première déflagration mondiale, dont l'Amérique est sortie assez forte, mais surtout de ce qui s'est passé en 1929 avec la grande crise et la grande dépression, d'abord financière, puis économique, sociale, culturelle, politique de 1929. Roosevelt a un discours sur la civilisation. Et la civilisation telle qu'il la voit consiste à créer des agences gouvernementales. Des agences gouvernementales qui vont avoir pour fonction de mettre en œuvre des grands programmes. Alors, par exemple, des grands programmes sociaux d'aide aux pauvres, des grands chantiers publics, d'énormes chantiers publics. Bien sûr, c'est le New Deal qui vont proposer des emplois à plus de 8,5 millions de personnes. Une ville comme Las Vegas, par exemple, est entièrement construite autour des programmes du New Deal, puisque ce sont les ouvriers qui construisaient un barrage pour retenir l'eau au Nevada, qui avaient besoin de se distraire le week-end, et les premiers jeux d'argent sont apparus dans ce contexte, donc les premiers casinos, et donc Las Vegas est né dans ce contexte. On oublie toujours que Las Vegas, symbole du capitalisme américain sauvage, si l'on veut, est en fait un produit de l'interventionnisme étatique keynésien très typique de la période de Franklin Delano Roosevelt en 1932 et au-delà. Et puis, l'autre chose très importante que FDR met en place, bien sûr, c'est la régulation économique. La régulation en particulier du système bancaire. Ce qui est très intéressant, c'est que Elon Musk, lui aussi, parle de civilisation. Et en tant que conseiller de Donald Trump, il va conseiller à Donald Trump d'avoir un discours de civilisation, c'est-à-dire de ne pas seulement mettre en œuvre des idées politiques, des règles, des lois, mais avoir dans l'esprit une reconstruction, un refaçonnement de l'ordre économique et social mondial. C'est au fond ce que fait Donald Trump avec les tarifs douaniers actuellement. C'est ça, il est en train de redessiner la carte et les modalités de l'économie mondiale avec une thérapie de choc dont on verra ce qu'elle donne dans quelques années. Pour l'instant, ça se passe très mal. Bref, Elon Musk est marqué par cette notion de civilisation. Et comme je le disais tout à l'heure, ça revient, on revient à la manière dont son propre grand-père, Joshua Heidelman, avait conçu le monde à l'époque de la fondation du mouvement technocrate. Il y avait quatre dimensions. Donc. Une première dimension, c'était de considérer le remplacement massif des agents politiques, donc des élus, par des agents gouvernementaux. Et faire réduire la taille de l'État et la taille du service public en remplaçant les élus par des agents gouvernementaux. La deuxième dimension, c'était une forme d'expansionnisme. Et le mouvement technocrate croyait particulièrement, comme M. Heidelman, le grand-père de Elon Musk, à l'annexion du Canada et du Mexique par les États-Unis. La troisième dimension, c'est que les noms propres allaient disparaître et être remplacés par des numéros. Il est un leader du mouvement technocrate qui se présentait dans les réunions publiques avec son nom qui était 1X1809X56. Ceci pour rappeler que le fils de Elon Musk, que nous avons vu à la télévision au cours des derniers temps, s'appelle lui-même XAEA12. Donc l'idée de remplacer les noms propres par des numéros. Et puis enfin, évidemment, la grande idée du mouvement technocrate, qui est entièrement embrassée et adoptée par Elon Musk et par beaucoup de leaders de la tech californienne aujourd'hui, c'est que les scientifiques et les ingénieurs, et notamment les ingénieurs de la tech, donc les technocrates, seraient les sauveurs du monde et de la civilisation. Alors c'est là qu'on en est, et c'est là que la façon dont Musk conçoit le monde et la civilisation est une sorte de mélange du schéma de la science-fiction, du schéma expansionniste d'ailleurs de la science-fiction, tel qu'il est montré de façon dystopique dans des ouvrages comme « La guerre des mondes » de Wells, à ceci près que dans la lecture de Elon Musk, eh bien, il y a un schéma expansionniste qui s'étend à des planètes non terrestres. Lorsque Donald Trump a été élu, le jour de l'investiture du président Trump, Elon Musk a évoqué le fait que la conquête de Mars serait l'un des grands projets de la présidence de Donald Trump. Donc on a ce mélange de science-fiction, de technocratie au sens du mouvement technocrate qui apparaît au début des années 30 au Canada et aux États-Unis, avec l'idée de démanteler tous les programmes, la plupart des programmes qui avaient fait le projet de civilisation de FDR, de Franklin Delano Roosevelt, dans les années 30. Et il y a un démantèlement progressif des fonctionnaires et de l'administration. Il y a le démantèlement des programmes sociaux. Ça, ce sont des choses qui se dégagent de la formation idéologique de Elon Musk depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Et il y a cette hypothèse que la technologie va remplacer tout ça, que c'est l'intelligence artificielle et les robots qui vont remplir les fonctions qui étaient celles des agents du service public dont Elon Musk proclame la nullité aujourd'hui. Et je voudrais terminer en évoquant la manière dont le mouvement technocrate a terminé. Parce qu'en fait, Gilles Leport, cette historienne, nous dit que le mouvement technocratique va avoir son heure de gloire au début des années 30, mais assez rapidement disparaître. Ce qui est très intéressant dans le travail de recherche biographique qu'a fait Gilles Leport, qui est encore une fois cette historienne qui enseigne le droit et l'histoire, en particulier l'histoire des États-Unis à l'université de Harvard sur la côte Est, Tunisie. Historienne très prolifique, ce que Gilles Leport nous indique, c'est que le grand-père de Elon Musk monte donc ce mouvement technocratique, ce mouvement de partisans de la technocratie, donc du remplacement de certaines fonctions sociales et culturelles par la technologie. Le grand-père de Elon Musk va de plus en plus apparaître comme un troublemaker, comme un fauteur de désordre, à tel point que le gouvernement canadien va s'en méfier. Et qu'un jour, lorsqu'il tente de rentrer au Canada, il en est empêché sous le prétexte qu'il présente un risque de trouble à l'ordre public. Il va se trouver arrêté à Vancouver, donc dans une ville du Canada sur la côte ouest, et va recevoir une condamnation. C'est à ce moment-là qu'il va fonder un petit parti politique antisémite. Là non plus, ça ne va pas durer très longtemps. Il est très marqué et très hanté par les futuristes italiens qui vont assez rapidement, sous le fascisme, devenir des renforts et des soutiens du fascisme italien. australien. Bref, nous avons un grand-père de Elon Musk extrêmement réprimé, puisque la politique de FDR a beaucoup de succès et que l'économie américaine n'aura cessé de se renforcer sous FDR. Vers 1950, le grand-père de Elon Musk va se réfugier à Pretoria, en Afrique du Sud, en 1950. C'est à Pretoria que Elon Musk est né. Jill O'Pore souligne les parallèles entre la pratique et les idées de M. Musk et celles de son grand-père. Elle aussi prophétise. À la fin d'un de ses articles, elle pose la question : est-ce que la technocratie est compatible avec la liberté ? Et bien sûr, son hypothèse, c'est que le mouvement technocratique s'est effondré parce qu'il était anti-démocratique.
Ah, intéressant tout ça.
Et alors, oui, très intéressant.
Ah ben d'ailleurs, maintenant, on va se mettre à l'heure de Musk. Hein. C'est plus les infos par Eric et Jacques, mais les infos par THX1138 et SEN5241.
C'est Georges Lucas.
Ah, ça va être le connaissez, oui. Ben, le fameux film de Georges Lucas qui s'appelle THX1138. Et d'ailleurs, c'est Robert Duval qui joue le rôle de THX1138 et Donna Pleasance qui joue le rôle de SEN5241.
Si, oui. Rappelez-vous les chénons.
Voilà. Alors, tu te rappelles que le film de Georges Lucas a été réalisé en...
Je crois début des années 80.
Non, 1971, avant la guerre des étoiles d'ailleurs. Parce que,
71, oui,
et c'est l'année de naissance de Musk.
Ah, d'accord.
Alors. Voilà, ouais, mais c'est bien, on rapproche de la dystopie, tu vois, THX1138, c'est quand même un monde technocratique.
Oui.
Même le Christ, c'est une intelligence artificielle qui fait le Christ, avec des policiers robots. Mmh. Ah, c'est mal, ça, c'est... Je sais pas, on se rapproche avec Musk.
Si on n'est pas très loin. Encore que maintenant, peut-être que Musk va se retrouver, je dirais, un peu à l'écart de l'équipe présidentielle, dans la mesure où l'augmentation des tarifs douaniers qui ont fait perdre des milliards, ses positions politiques aussi, qui ont fait perdre des milliards, ça va peut-être aussi doucher un peu son enthousiasme.
Et que pense l'intelligence artificielle de tout ça?
Il faut lui poser la question.
Alors toi, c'est quoi cette voix ta chronique, monsieur SEN5241?
C'est la rubrique, c'est la même chanson. Enfin,
oui, d'accord. Et c'est la chanson de
Une chanson, comment il s'appelle, enfin, on va te dire ça.
SY2336.com.
C'est une chanson d'un certain Mark James. Mais une chanson qui signe le retour du roi, le retour du king. Et la chanson, c'est Suspicious Mind.
Et ça veut dire quoi en français?
L'esprit jaloux, suspicieux. Quoi.
Ah, d'accord.
En 1968, Elvis Presley était un has-been. Depuis la fin de son service militaire, le roi déchu, toujours conseillé par son colonel, le colonel Parker, s'était bien plus consacré à sa carrière d'acteur, notamment lorsqu'il dansait gentiment à Hawaï et signait dans le même temps des bandes originales souvent mièvres et peu mémorables. Mais pendant ce temps-là, la révolution était d'abord venu d'Angleterre avec les Rolling Stones et les Beatles. Pourtant, lors du Noël 1968, il réapparaît après 7 ans d'absence, plus en forme que jamais, lors d'une émission intitulée Elvis 68 Comeback Special. Et tout de cuir vêtu, il connut un immense succès. The King is back, le roi est de retour. De retour donc sur le devant de la scène, le King s'entoure d'excellents musiciens et d'un producteur de qualité et retourne à Memphis plus de 14 ans après y avoir enregistré ses premiers succès dans les studios Sun. Elvis signe donc Hail from Elvis in Memphis, où il brasse toute la culture populaire américaine, de la soul au rhythm and blues en passant par la country. On est quand même assez loin des débuts du King, de ses succès comme All Shook Up, Jailhouse Rock ou encore Hound Dog. Ici, il est vraiment dans la soul avec des arrangements assez riches et plusieurs chœurs. Il signe là un vrai retour. Après ce retour triomphal, le King enchaîna les tournées aux USA en voyant peu à peu sa santé se dégrader jusqu'à sa mort en 1977.
15 août, non?
Sur cet album, il y a un succès mondial, une adaptation d'un titre écrit par Mark James et sorti en single sur le label Scepter Records en 1968. Le producteur de la chanson, Chips Moman, la présente à Elvis Presley qui décide d'enregistrer une reprise. Et sa version sort en août 1969 chez RCA. Elle se classe numéro 1 des ventes aux États-Unis et constitue le 17e et dernier single numéro 1 du chanteur. On écoute donc Elvis Presley avec Suspicious Mind.
The King.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say,
just don't let a good thing die. When honey, you know I have never lied to you.
Voilà, c'était la version d'Elvis Presley de Suspicious Mind.
C'est original.
Non, ce n'est pas l'original. L'original, ça a été écrit par un certain Mark James.
Ah.
Donc j'ai pu écouter la version originale. Bon, franchement, celle d'Elvis Presley est largement supérieure.
D'accord.
Alors donc j'ai préféré mettre celle dont tout le monde se rappelle.
Et tu ne mets pas les 3250 000 versions ?
Non. Non, par contre, la deuxième version, c'est la version des Fan Young Cannibals. En l'occurrence, Roland Gift au chant, Andy Cox, ex The Beat, à la guitare, et David Steele, encore un ex The Beat, à la guitare. Alors, The Beat, c'était un groupe de ska que de la fin des années 70 en Angleterre. Et David Steele, il était à la guitare basse. Et en 1985, ils enregistrent leur version de Suspicious Man, qui est pas mal, elle aussi.
Mais une version cannibale, alors. Ouais, ça va bouffer.
Elle est bien bonne, celle-là.
Elle est bien sauvage.
Donc, les Fan Young Cannibals, Suspicious Man.
Beau titre, Cannibals, pour le combo de musique. Miam, miam.
We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, just mine. And we've been here.
Les Fan Young Animals avec leur version de Suspicious Mind. Troisième et dernière version, une version marseillaise.
Ah.
Oui, oui, celle des Cowboys from Outer Space.
D'accord.
Oui, mais c'est un groupe
des Cowboys à Marseille.
Hein. Oui, c'est le groupe de Michel Basly. Et ce n'est pas très étonnant que le groupe reprenne un classique d'Elvis, puisque Michel Basly était le leader d'un groupe rockabilly au début des années 80 à Marseille, les Mosquitos. Oui, oui.
Et quoi ça s'appelle le groupe ?
Les Mosquitos.
Les Mosquitos, d'accord, oui, oui. Les moustiques.
Et oui, et la version est plutôt garage que rockabilly, mais elle n'en est pas moins intéressante.
Ah, voilà, du rock marseillais, ça c'est bien.
Donc les Cowboys from Outer Space avec Suspicious Mind.
100% Man in Marseille.
Because I love you too much.
Voilà, c'était la version des Cowboys from Outer Space de Suspicious Mind.
Version marseillaise.
Version marseillaise, 100%, camarade.
Mais chantée en anglais, 100%.
Ah, bah, écoute,
quelle hérésie.
Quelle hérésie, enfin, je sais pas, tu sais. Après,
hein. Bon, je sais pas ce que ça donnait traduit en français.
Oui, voilà, aussi.
Ouais. Quoi, le titre en français, ça veut dire quoi, déjà?
Bah, c'est l'esprit jaloux, quoi, en fait.
Esprit jaloux, d'accord.
Ou suspicieux, ou ouais, soupçonneux.
Soupçonneux, jaloux, ouais. C'est
voilà, bon. Donc traduction ouais. Littérale et puis traduction...
On est dans la série de la suspicion, là, de la méfiance.
Et pourquoi on y reste?
Ah, je me méfie, là, je me méfie de tout le monde. Hein.
Tu as raison.
Alors, on va revenir aux États-Unis.
Ah, encore?
Alors, oui, oui, de l'empereur Trump qui veut fêter son anniversaire le 14 juin avec un grand défilé, comme Kim Jong-un.
Ah oui, d'accord.
Ouais, et qui veut faire sculpter sa tête dans le monument.
Il est un peu mégalomane.
Un peu, oui, pas beaucoup. Il reste plus que son couronnement comme Bokassa, comme empereur.
Oui, pourquoi pas. Ou comme Emin Nada. Qui a mal fini aussi, d'ailleurs.
Oui, fait un Bokassa plutôt.
Bokassa aussi.
C'est le seul chef d'État africain, ça fera couronner l'empereur.
Oui, oui. Bon,
le ridicule ne tue pas. Non, on va parler de gamme d'une histoire un peu moins drôle et sur la politique d'expulsion que mène Trump vis-à-vis des immigrés.
Mm-hmm. Oui,
voilà, à grande, il remet en place la politique du que rêve le RN, Retailleau. Mais bon, le thème de l'immigration, toujours le même thème pour affoler les électeurs et pour gagner les élections, c'est pas nouveau. Le péril immigré, le péril étranger, bon,
voilà, c'est très classique.
C'est un classique en matière de manipulation des gens sur les peurs. Sans considérer que la réalité de l'immigration, c'est un peu totalement différente. Mais voilà, la Cour suprême américaine ordonne à l'administration Trump de faciliter le retour d'un Salvadorien expulsé à tort. Eh oui, parce que la politique de Trump fait des couacs.
Oui, mais il semblerait que Trump ne soit pas trop s'en fout. Quoi, en fait.
Voilà, la Cour suprême américaine a infligé un revers à l'administration Trump dans un cas hautement symbolique de sa fermeté affichée face à l'immigration. Lui ingénieur de faciliter le retour d'un immigré salvadorien expulsé par erreur vers le Salvador.
Ah oui.
Voilà. Kilmer Agrebo Garcia, un immigré salvadorien vivant aux États-Unis et mari à une Américaine, a été arrêté le 12 mars par des agents de la police de l'immigration, au moment où il a mené son fils à l'école.
Oui.
Précisons. Il fait partie des 200 personnes expulsées le 15 mars par l'administration Trump vers le Salvador, la plupart des autres expulsés, appartenant supposés ou présumés au gang vénézuélien Tren de Aragua, déclaré organisation terroriste par Washington.
Oui, oui.
L'administration Trump a ensuite reconnu devant la justice que son expulsion résultait d'une erreur administrative. Oui, parce qu'il avait été fiché il y a 2019, à l'époque il n'avait pas de sang de papier lorsqu'il demandait du travail, mais depuis il a eu les papiers. Donc,
oui.
Et il n'appartient à aucun gang d'ailleurs.
D'accord, enfin bon.
Mais elle a affirmé de se trouver dans l'impossibilité de réparer cette erreur, Kilmer Grejo Garcia étant désormais détenu dans une prison salvadorienne de haute sécurité et assuré qu'il faisait partie du gang salvadorien MS-13, également classé terroriste par les États-Unis en février. Mais non, ce n'est pas tout à fait vrai. Ah. D'ailleurs, le migrant en question a quitté le Salvador pour éviter de partenir dans un gang, pour échapper au gang.
Ah oui, comme quoi.
Voilà, comme quoi en plus. Hein. Et en fait, c'est un juge fédéral, Paula Isinix, a balayé les arguments de l'administration Trump, disant n'avoir pas vu de preuve de son appartenance à un gang et exigeant de l'exécutif qu'il facilite son retour sur le sol américain avant le 7 avril. La Cour suprême sixième d'urgence par l'administration Trump avait suspendu cette décision jusqu'à nouvel ordre et demandé aux avocats de formuler leur réponse écrite. Cette décision et son exigence de réaliser à la hâte des négociations internationales sensibles et de réaliser le retour d'Agrebo Garcia cette nuit est inédite et indéfendable, affirmé l'administration Trump dans son recours, accusant une fois de plus les juges de s'ingérer dans les prérogatives du pouvoir exécutif.
Donc, si on veut faire ce qu'on veut, quoi.
Oui, non,
qu'est-ce que ça veut dire
Les avocats de M. Agrebo Garcia ont fait valoir que leur client ne faisait l'objet d'aucune inculpation d'un quelques pays que ce soit. À l'unanimité, les 9 juges de la Cour suprême, pourtant la Cour suprême est conservatrice. Hein.
Ultra, même. Oui.
Les 9 juges de la Cour suprême approuvent la décision de première instance dans la mesure où elle fait obligation à l'exécutif de faciliter le transfert de la garde de Agrebo Garcia du Salvador aux autorités américaines et de garantir que sa situation est traitée comme elle l'aurait été s'il n'avait pas été envoyé à tort au Salvador. Donc la Cour rétablit donc la décision de la juge de la première instance. Alors, il faut savoir quand même que le ministre de la Sécurité intérieure américaine, Chris Noem, qui s'est rendu dans la prison salvadorienne où sont incarcérés les immigrés expulsés du 15 mars.
On l'a vu sur les images en train de parader. Ouais.
C'est déclaré convaincu que les personnes qui y sont doivent y être et devraient y rester jusqu'à la fin de leur jour.
Même si elles y sont pour rien. Ouais.
Voilà. La Maison-Blanche a expliqué qu'en échange d'environ 6 millions de dollars, le président salvadorien Nabi Bukele avait accepté d'incarcérer des immigrés expulsés le 15 mars dans cette prison de haute sécurité connue pour la dureté de ses conditions de détention. Un accord qualifié de très bonne affaire par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Lévy. plus vite en comparaison des coûts pour le contribuable américain et de les détenir aux États-Unis. Oui, parce que ça demande à un pays étranger de détenir les immigrés illégaux.
Bah oui, bah, c'est nouveau, voilà. Marc, il a acheté en France. Hein,
l'organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, a exhorté les États-Unis à publier la liste des Vénézuéliens expulsés le 15 mars et les autorités salvadoriennes à confirmer leur localisation actuelle, révéler s'il existe une base juridique pour les détenir et leur permettre les contacts avec le monde extérieur. Ces disparitions forcées sont une grave violation du droit international, estime l'ONG.
Mmh. Bon, il n'y a pas que ça. Malheureusement, aux États-Unis, il y a aussi les soucis par rapport à l'avortement. Le 20 mars 2025, dans une zone rurale de l'État de Géorgie aux États-Unis, Selena Maria Klander-Scott est retrouvée inconsciente dans son appartement. Elle perd beaucoup de sang. Une fois sur place, les secours qui interviennent constatent une fausse couche et la prennent en charge. Cependant, ce n'est malheureusement que le début d'une série d'épreuves pour cette femme, puisqu'elle est ensuite arrêtée par la police. La raison de son arrestation ? Officiellement, Selena Maria Candler-Scott est accusée d'avoir dissimulé la mort d'autrui et abandonné un cadavre, parce qu'elle a jeté les restes du fœtus dans une benne à ordures, rapporte NBC News. Pourtant, les charges ont depuis été abandonnées. Une autopsie a déterminé qu'elle avait bien fait une fausse couche naturelle autour de 19 semaines de grossesse et confirmé que le fœtus n'était pas viable. L'histoire de Selena Maria Candler-Scott n'est pas un cas isolé. Au pays de Trump, les poursuites judiciaires concernant des grossesses sont en augmentation dans les États où la personnalité juridique des fœtus est reconnue. C'est le cas en Géorgie, où l'interdiction de l'avortement à 6 semaines à travers la loi Living Infant Fairness and Equality Act Life accorde à tout fœtus une personnalité juridique à partir du premier battement de cœur. Bien que des dispositions relatives à la considération des fœtus comme des personnes à part entière soient antérieures à l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade en 2022, les experts considèrent que cet événement a participé à leur amplification. Pour rappel, l'arrêt Roe v. Wade, émis par la Cour suprême en 1973, protégeait le droit à l'avortement au niveau fédéral. Depuis 2022, chaque État peut désormais définir sa propre législation concernant l'avortement. Selon l'Institut Guttmacher, un organisme de recherche qui soutient les droits reproductifs, plus d'une vingtaine de projets de loi sur la personnalité juridique des fœtus ont été présentés au cours des trois premiers mois de cette année aux États-Unis. Jill Weberlands, professeur à la faculté de droit de l'université de l'Iowa et experte en fausse couche, perçoit des implications plus larges dans l'arrestation de Selena Maria Klander-Scott. Selon elle, des recherches montrent que 10 à 20% des grossesses connues se terminent par une fausse couche, le plus souvent au cours du premier trimestre. Les défenseurs des droits des femmes affirment que le nombre de femmes enceintes poursuivies pénalement pour des comportements liés à leur grossesse a augmenté après l'abrogation de Roe v. Wade. Au moins 210 femmes ont été inculpées l'année suivante, selon un rapport de 2024 de Pregnancy Justice, un groupe de défense des droits reproductifs. C'est pas rassurant encore.
Ben, on va parler de des informations plus plaisantes là. Afrique du Sud, un accident d'hélicoptère provoqué par un pingouin.
Un pingouin, ah bon.
Voilà, oui. Un pingouin a été à la cause d'un accident d'hélicoptère survenu le 19 janvier dernier en Afrique du Sud. L'animal qui avait été placé dans une boîte en carton sur les genoux d'un passager a glissé et a heurté les commandes du pilote juste après le décollage.
Ah là ouais, là, j'ai une idée quand même, la rencontre entre le pingouin et l'hélicoptère, ça paraissait un peu...
La rencontre entre l'avion et les oiseaux, ça peut arriver.
Oui, mais enfin, c'est plus rare.
L'avion qui avait tiré sur le son. Mais ça, non, c'était plus insolite, oui. Alors que l'hélicoptère se trouvait à environ 15 mètres du sol, le carton a glissé vers la droite et est tombé sur le levier de commande de pas cyclique du pilote, indique le rapport. L'aéronef a pivoté ses pales de rotor, ont heurté le sol et l'hélicoptère s'est écrasé sur son côté droit à environ 20 mètres du point de décollage selon le rapport.
Bon, il n'y a pas eu de victime ?
Alors non, si l'hélicoptère Côte d'Ivoire a été détruit, fort heureusement, aucune des 4 personnes à bord n'a été blessée et encore moins le pingouin.
Ah,
le pingouin est sauvé aussi.
C'est bien.
L'autorité a déclaré que l'absence de confinement sécurisé pour le pingouin était responsable de la création de la situation dangereuse. Le passager assis sur le siège avant gauche a placé la boîte en carton contenant le pingouin sur ses genoux et la tenait avec ses mains, précisait le rapport. L'accident s'est produit sur l'île de Bird, l'île des oiseaux d'ailleurs, lors d'un voyage visant à effectuer une étude aérienne au large de la côte sud-est du pays. Le rapport ne donne aucune raison expliquant pourquoi le pingouin était à bord. Alors c'est vrai que l'absence d'une caisse adéquate et sécurisée signifiait que le confinement du pingouin n'était pas adapté aux conditions du vol, a conclu le rapport. Bon, c'est vrai que ne rentrez jamais avec un pingouin dans un hélicoptère.
Oui, alors tu sais que Amnesty International annonce un record du nombre d'exécutions dans le monde depuis 2015.
Oui, c'est un record assez triste.
Oui, le nombre d'exécutions recensées dans le monde a atteint son plus haut niveau depuis près d'une décennie. Une hausse particulièrement observée en Iran, en Irak et en Arabie Saoudite, selon le rapport annuel d'Amnesty. d'Amnesty International publié le 8 avril. L'organisation de défense des droits humains basée à Londres a dénombré 1518 exécutions en 2024. Mais ce chiffre ne comprend pas les milliers de personnes très probablement exécutées en Chine, qui reste le pays ayant procédé au plus grand nombre d'exécutions au monde. Selon le rapport sur la peine de mort de l'ONG, le nombre de personnes exécutées en 2024 est en hausse de 32% par rapport à 2023 et a atteint un record depuis 2015, année au cours de laquelle 1634 exécutions avaient été comptabilisées. En revanche, pour la deuxième année consécutive, le nombre de pays ayant mené des exécutions s'élève à 15, soit le plus bas jamais enregistré. Comme pour la Chine, les chiffres de la Corée du Nord et du Vietnam ne sont pas inclus dans ce rapport, faute d'informations suffisantes et disponibles. Même si le secret entourant ce châtiment continue d'empêcher le recensement dans certains pays que nous pensons responsables des milliers d'exécutions, il est évident que les États qui maintiennent la peine capitale sont une minorité isolée, a déclaré la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Callamard. Selon l'ONG, l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite ont été responsables l'an dernier de 91% des exécutions recensées. Elles sont en hausse dans les trois pays. L'Iran, à lui seul, compte pour 64% des exécutions connues. Au moins 972 personnes y ont été mises à mort, soit 119 de plus que l'année précédente. En Arabie Saoudite, où ont lieu décapitations, les exécutions ont doublé, passant de 172 à au moins 345. Elles ont presque quadruplé en Irak, d'au moins 16 à au moins 63 selon Amnesty. L'ONG accuse en particulier l'Iran et l'Arabie Saoudite d'utiliser la peine de mort pour réduire au silence manifestants et opposants politiques. L'Iran a persisté dans son recours à la peine de mort pour punir des participants au mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022, y compris un jeune atteint d'un handicap mental. Donc dit Amnesty. Les autorités saoudiennes ont continué d'utiliser la peine de mort pour museler la dissidence politique et sanctionner des membres de la minorité chiite ayant soutenu les manifestations anti-gouvernementales entre 2011 et 2013. Les infractions liées à la drogue représentent plus de 40% des exécutions dans le monde, souligne Amnesty, notant qu'elles sont nombreuses en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite et à Singapour. Ces exécutions sont illégales en vertu du droit international qui considère que le recours à la peine de mort doit être limité aux crimes les plus graves dont ne fait pas partie le trafic de stupéfiants. À l'heure actuelle, 145 pays ont aboli la peine de mort, soit ne l'appliquent plus selon Amnesty International.
Oui, dans l'Europe occidentale.
Oui, ben heureusement.
Toute l'Europe.
C'est ça.
Oui, et alors que certains États des États-Unis n'ont pas aboli la peine de mort.
C'est ça, oui.
Et interdisent l'avortement.
Oui, aussi, voilà. Alors, et bon, ils ont qui ont recours.
C'est pas tous les États des États-Unis.
Qui ont recours au peloton d'exécution parce que, bon, ils ont des problèmes avec les produits qu'on injecte ou qu'on met à mort. Oui. Donc, ils ont des problèmes pour les trouver.
Bon, même les cas, de condamnés à fusiller aussi.
C'est ça, c'est ce que je disais.
Fusiller. Peloton d'exécution. Tu comptes voyager en avion?
Pour leur nom.
Low cost.
Ryanair. Ryanair, low cost. Oui, je connais la compagnie.
Alors, une passagère escortée par la police à la sortie d'un vol Ryanair pour une histoire de...
De
chips.
De chips,
frites, oui.
Ah bon, de frites.
Ah ouais, de frites, les chips, oui.
Donc, elle n'avait pas la frite.
Ouais, bon. Oui. Alors, l'équipage d'un vol de la compagnie irlandaise a contacté la police après qu'une mère de famille a consommé des chips avant d'avoir pu les payer en raison d'un problème avec le terminal de la carte bancaire.
Ah.
Alors, tu sais, Ryanair, tu grattes surtout. Hein, quand tu vas à paye, tu dois payer pour les bagages, tu dois payer pour ça, tu dois payer pour la bouffe à l'intérieur.
C'est ça, voilà. C'est pas cher, mais après, tu payes pour tout.
Voilà. On sait qu'en Ryanair, tu grattes surtout pour les bagages qui dépassent un centimètre, une amende pour un retard à l'enregistrement, mais que la compagnie Low Cost irlandaise appelle la police pour 8 euros, ça reste quand même étonnant.
Oui, c'est sûr.
Parce qu'un délai de 8 euros.
Hein. Ouais.
Pourtant, c'est ce qui est arrivé à une Britannique de 55 ans quand elle a mangé des chips avant de vouloir les payer à bord d'un vol entre Tenerife et Bristol.
Ah bon?
C'est le 28 mars dernier, oui.
Donc elle aurait dû payer avant de manger, c'est ça?
Anne-Marie et son compagnon rentraient en Grande-Bretagne après avoir passé des vacances en Espagne à l'occasion de son anniversaire.
Mm-hmm.
Prise d'une fringale dans l'avion et faute de repas compris dans le prix du billet,
oui.
La passagère de 55 ans a commandé à l'hôtesse une boîte de chips, un Coca-Cola et de l'eau.
Oui.
Le tout pour la somme de 8 euros.
Jusque-là, tout va bien.
Qu'elle comptait régler par carte bancaire.
Oui.
Mais c'est là que l'affaire se complique, eh oui. Alors, selon la déclaration d'Anne-Marie, le paiement sans contact n'a pas fonctionné avec le premier terminal.
Ah.
Alors, l'hôtesse tentait sa chance avec un second appareil. Anne-Marie a entre-temps ouvert le paquet et a commencé à manger ses chips.
Ah, elle est, c'est ça.
Avant d'avoir payé.
C'est ça, c'est bien ça.
Face au nouveau refus de paiement sans contact, faute d'argent sur elle, la passagère a proposé de retirer du liquide à l'arrivée pour régler la dette.
Ah oui, c'est vrai.
Impossible, ont répondu les membres de l'équipage, selon Anne-Marie, qui l'ont accusé d'avoir perturbé le vol en plus d'avoir refusé de payer. Version que la quinquagénaire a contestée, ce qui n'a pas empêché à l'équipage de requérir l'intervention de la police et de l'atterrissage à Bristol.
C'est vrai, c'est vraiment quelqu'un de dangereux. Hein.
Voilà. Donc, escorté par les forces de l'ordre, Canne-Marie a débarqué avant d'être placé à l'arrière d'un fourgon de police. Bon, alors les policiers, évidemment, ils avaient la joie de voir l'affaire du siècle.
Hein. C'est sûr, ouais, pour un paquet de chips. Ouais.
Se rendant compte de l'absurdité de la situation, les policiers se sont contentés de conduire la fautive à un distributeur de billets afin qu'elle puisse régler les 8 euros.
Et oui, voilà. C'est voilà. Et donc, c'est terminé.
Ils l'ont escorté, voilà. Il faut savoir que la compagnie a affirmé avoir suivi sa politique contre les comportements déplacés à bord des appareils.
Ah oui, quoi, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu commandes des chips, et ta voilà. Carte bancaire
en
marche
outre,
pas.
Selon la,
en tôle.
Alors, en outre, selon la passagère, Ryanair l'a banni à vie de ses lignes pour cette histoire de chips. Donc, interdit de vol dans Ryanair.
Ouais,
pour une histoire de fruits. Peu importe pour Anne-Marie, je n'aurai plus jamais voyagé avec cette compagnie de toute façon.
De toute façon, on peut dire qu'en fait, elle a plus la frite.
Voilà.
Bien,
ouais.
Bon, ben, ouais, on a terminé.
Pour 8 euros. Hein.
Oui, on a terminé ces informations du samedi.
Ça sera de galère. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.
Allez, à la prochaine.
Galère, galère. Narado qui rame à compte courant, le générique, ça arrive.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican.